péché et surtout avec la culpabilité et comment je pouvais rester des heures, voire des jours tristes. Comme si ça prouvait à Dieu que je n'avais pas voulu penser, faire ou omettre quelque chose. Tu sais. Comme si ça plaisait à Dieu, dans le fond, de nous voir tristes. Puis que ça montrerait qu'on a du remords. À un moment donné, même, il venait des moments où je n'avais pas de remords. Je me demandais si ma repentance, ma contrition, on appelle ça comme tu veux, était acceptée de la part de Dieu. Puis, plus j'ai avancé dans ma vie chrétienne, je pense que j'ai fait des progrès. Puis, les premiers progrès que j'ai faits, c'est pas de devenir un moins grand pécheur. J'étais le bon vieux moi. Mais j'ai appris à recevoir la grâce de Dieu, puis le pardon de Dieu, sans avoir à le mériter, mais comme une faveur qui vient de Dieu. Et j'ai commencé à me laisser aimer par Dieu, puis à me relever rapidement, et le progrès de ma marche a continué ensuite. C'est-à-dire que sachant que Dieu m'aimait, indépendamment de ma marche, j'ai commencé à devenir un petit peu plus sécure en tant que personne, et moins volatile, moins sensible un petit peu à comment je me sentais. Et je savais que Dieu m'aimait, et je savais que Dieu me pardonnait, ce n'était plus une question de est-ce que je dois être triste pour obtenir le pardon? Est-ce que je dois avoir fait contrition? Est-ce que je dois être pénitent ou me mépriser moi-même pour que finalement Dieu m'accorde son pardon? Puis je grandissais dans cet amour-là, puis de plus en plus, je suis devenu sécure. Donc, la question que je pose ce matin, c'est quand est-ce que la tristesse est mon allié, puis quand est-ce qu'elle est mon adversaire? En rapport avec le péché, bien sûr. Donc, ça va être ça le titre du message aujourd'hui. Je suis triste, je regrette, je reçois. Donc, c'est un petit peu en québécois, fait que c'est des Français de France. Je reçois, c'est comme ça qu'on dit ça ici au Québec. Je reçois. C'est comme ça que ça s'écrit. Quand je suis convaincu puis que j'ai tort, comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que vous réagissez? Moi, mes chiens, quand ils ont une émotion négative, mon chien ou mon chat, quand ils ont une émotion négative, ils baillent ou se grattent. Je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie. Mais quand vous sortez pour aller dehors et que votre chien vous regarde et fait « Il n'est pas en train de dire « Tu m'ennuies ». Il est vraiment en train de dire « Ça m'énerve au plus haut point que tu ne m'amènes pas marcher avec toi ». Et je me sens contrarié, fait que je ne sais pas quoi faire, fait que je fais du déplacement. Un des exemples qu'on voit dans la Bible de déplacement, dès le début de la Bible, hein, c'est l'homme qui n'est pas capable d'admettre qu'il a eu tort, fait qu'il dit « C'est la femme que tu m'as donnée ». Hein, on voit ça dès les premières pages de la Bible. Donc, quand je suis convaincu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais du déplacement? Est-ce que je remets cette émotion négative-là sur la faute de mon passé, des événements? Ou bien non, je dis non, sais-tu quoi, j'ai eu tort. Et ce qu'on va lire aujourd'hui, on se trouve à être vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi du jour de la crucifixion. Okay? Et ça devrait nous donner pas mal de lumière sur le sujet que je suis en train de vous discuter. Donc, est-ce que vous avez besoin de sentir un regret pour que votre repentance soit complète? Est-ce que pour vous, se repentir, ça veut dire avoir des remords? Quand vous avez besoin d'être pardonné, est-ce que juste réparer ou tenter de réparer est suffisant? Quand vous êtes convaincu par Dieu, par sa parole, par l'Esprit Saint qu'il nous a donné, est-ce que vous prenez cette conviction-là, vous faites du déplacement sur autre chose? Ou bien non, vous pouvez dire, « Sais-tu quoi? Je suis désolé. T'as raison, Dieu, j'ai tort. » La tristesse. Quand la tristesse envahit votre cœur concernant la culpabilité, la condamnation, est-ce que ça vient de Dieu, ça? Les passages qu'on va lire aujourd'hui vont nous aider. Peut-être que vous pourriez tourner dans Matthieu au chapitre 26. On va lire ensemble du verset 58 jusqu'au verset... On va skipper, on va aller au verset 69 jusqu'à 75. Donc, ça se passe entre minuit et 3 heures du matin, la première partie de mon message, de minuit à 3 heures du matin. J'ai bien aimé faire cette étude-là parce que nous, dans notre Bible, on lit ça verset après verset, chapitre après chapitre, puis on pense que les événements se passent une après l'autre. Mais ce qu'on va lire ce matin, ça se passe dans la nuit, en même temps que d'autres événements. Et juste de prendre le temps de voir que Jésus a passé 3 heures devant Caïphe à se faire interroger, pas 30 minutes, pas 20 minutes, 3 heures de temps. Et de voir qu'est-ce qui se passait dans la cour de Caïphe, qui est le grand prêtre, en même temps, ça m'a comme... j'ai beaucoup aimé ça, étudier ça. Donc, on va lire à partir du verset 58, ensuite 69 à 75. OK. Pierre le suivit de loin. Donc, on se rappelle que là, il vient d'être arrêté dans le jardin de Gethsémané. Et puis, il a été amené dans la maison de Caïphe. Hein? Et de Anne, puis ensuite de Caïphe. On a vu ça dans le dernier message. Mais tout cela est arrivé à... Excuse-moi, verset 58. Je suis remonté à 56. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. On lit ensuite le verset 69 à 75. 69. Or, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen? » Mais il le nia devant tous en disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Certainement, toi aussi, tu faisais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Il se mit à jurer en lançant des malédictions, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois. » Et il sortit et pleura amèrement. Donc, je vous rappelle simplement, pour ceux qui... vous étiez là ou vous n'avez pas pu être là, je vous mets juste un petit peu en contexte. Dans la nuit de jeudi à vendredi et jusqu'à la crucifixion qui va avoir lieu entre midi et 3 heures environ, il y a deux procès qui se passent, des procès religieux et des procès civils. Et dans les procès religieux, il y a trois phases. Il y a la comparution dans la maison de Anne dans la nuit, de jeudi soir avant de ce qui va se passer aujourd'hui, finalement. La comparution dans la maison de Caïphe, c'est en train d'avoir lieu. Et la condamnation devant le Sanhédrin, qui vont attendre le lever du jour, on va le voir plus tard aujourd'hui dans le message. Et il y aura aussi le procès civil où il va comparaître devant Pilate, devant Hérode. Puis ici, ça devrait être marqué Pilate, recomparition devant Pilate. Donc, on est dans la deuxième étape des procès religieux. Et en même temps que Jésus est dans la maison de Caïphe, les événements se passent en même temps dans la cour du grand prêtre. Donc, ce qu'on vient de lire, Pierre qui se réchauffe sur le bord du feu, les servants qui viennent le reconnaître, Dieu était avec lui, tout ça. Donc, ce qu'on est en train d'étudier se passe en même temps dans la cour pendant que Jésus est dans la maison de Caïphe. Les disciples ont été éparpillés dans le jardin, mais il se trouve que Jean et Pierre l'ont suivi dans l'arrestation. Ils l'ont suivi avec les 300 soldats qui l'ont arrêté. Ils l'ont suivi tout le long. Et là, même, ils ont rentré dans la cour. Et Jean a un accès à la résidence du grand prêtre. Jean, il est très connu de Caïphe, le grand prêtre. On le lit dans l'évangile de Jean. En passant, vous allez voir le nom de l'évangéliste ici, mais les passages sont tous ici. Donc, quand je dis Jean, bien, c'est sûr que c'est dans les versets qui sont ici, d'accord? Simon-Pierre et un autre disciple. Jean s'appelle un autre disciple. Hein, suivait Jésus. Jean, il ne prononce jamais son nom dans l'évangile de Jean. Il va se nommer le disciple que Jésus aimait, ou un disciple, un certain disciple. Mais c'est évidemment Jean ici dont il est parlé. Ce disciple était connu du grand prêtre et il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre. Et tandis que Pierre restait dehors près de la porte, alors l'autre disciple qui était connu du grand prêtre sortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Donc, Jean, on ne sait pas c'est quoi la relation qu'il y a avec le grand prêtre, mais il est connu des serviteurs. On le laisse rentrer dans la cour du grand prêtre sans problème. Puis lui, ben, il va se servir de son privilège pour faire entrer Pierre avec lui. Et là, ils vont se retrouver sur le bord du feu. Et la scène est vraiment un crescendo, quelque chose qui commence bas, mais qui finit vraiment fort comme intensité sur une période de 3 heures. La première servante qui rouvre la porte, c'est elle. Dans les différents textes qu'on lit, on s'aperçoit que c'est elle qui a dit « t'étais avec Jésus ». Ok. Et là, il y a un premier son de coq qui va être chanté. Et ça, c'était le premier son du coq qui était à minuit en Israël. Hein? Et quand il dit, Pierre va répondre, « je le connais pas ». En fait, c'est vraiment dans l'original, je renie le connaître, je connais pas ce gars-là. Ok. Mais le crescendo qui va augmenter, c'est que là, il y a la portière. Dans un des textes, c'est écrit « une autre servante », puis dans un des textes, c'est écrit « la servante qui lui avait ouvert ». Elle est revenue encore une deuxième fois, mais c'est pas elle qui est là. Elle n'est pas allée voir Pierre là, cette fois-là, elle est allée voir les autres, là, ils ont jasé ensemble, puis il y a une autre servante qui a parlé puis qui l'a reconnue. Hein? Et donc, la deuxième servante, elle dit le reconnaître aussi près du feu. Et là, il va dire, je jure que je ne le connais pas. Donc là, il y a vraiment, ça augmente. Il fait un serment, il jure qu'il ne le connaît pas. Et finalement, la troisième fois, eh ben, on reconnaît Pierre pour son accent de Galiléen. Et peu après, Marc dit « peu après », puis l'autre dit, Luc dit « environ une heure plus tard ». Environ une heure plus tard, un autre insistait en disant « certainement cet homme était aussi avec lui, car il est Galiléen ». Et là, ce qui est intéressant ici, c'est que on apprend par Jean qu'un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit « ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ». Fait que là, il était dans le jardin, le gars, puis il a vu Pierre couper l'oreille du soldat, puis le soldat, il se trouve que c'est un membre de famille. Fait que là, ça commençait à être pas mal personnel, fait qu'il se sentait comme mis dans un coin. Et là, Pierre, là ce qu'il va faire, le coq va chanter, en fait, il va se passer que, alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et l'imprécation qu'il va faire, eh bien, ça vient, dans le grec, ça parle vraiment que ça requiert un objet. Donc, l'idée, c'est qu'il a fait une malédiction sur la personne du Seigneur Jésus. Il l'a traité comme un coupable. Quelque chose comme « maudit soit cet homme » ou encore « qu'il soit détruit ». Il a fait une parole d'imprécation, de malédiction sur la personne du Seigneur Jésus. En voulant dire « c'est un criminel, traitez-le comme tel ». Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Donc là, il est 3 heures du matin. Fait que ça fait 3 heures entre le premier chant du coq et le deuxième chant du coq. Fait que, tu sais, nous autres, on lit ça en 10 minutes, ce qui s'est passé devant Caïphe, tu sais. Puis là, ils l'ont malmené, puis ils ont trouvé des fausses accusations. Sinon, ça fait 3 heures qu'il est rentré là. Et ça fait 3 heures aussi que Pierre est sur le bord du feu, là, ou qui est dans la cour, tout ça, puis que les gens parlent, puis que là, ils disent, coudonc, on le connaît, lui, pour... Et là, dès que le coq va chanter, les regards de Jésus vont être croisés. Immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit avant que le coq chante. « Tu me renieras 3 fois. » Et il sortit et pleura amèrement. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Jésus est en train de sortir de la maison du grand prêtre. Il se retrouve là dans la cour de la maison du grand prêtre. Jésus croit son regard en même temps que dans le fond, le coq chante. Tu sais. Puis le regard, ça pourrait dire, ah, « Je te l'avais dit que tu me renierais. Hein? » Je te l'avais dit. Hein? Mais ça pourrait être aussi, « Je t'avais jamais demandé de faire ça. » Je t'aime, ça doit être difficile pour toi. Je ne sais pas c'est quoi son regard. Mais une chose est sûre, c'est que Pierre va sortir avant que Jésus peut-être commence à se faire battre. Pierre va commencer à voir Jésus se faire mettre un drap sur la tête, puis on va commencer à le frapper, puis on va dire qui t'a frappé? T'sais, si tu es un prophète, tu sais tout. Fait qui t'a frappé? On va commencer à ridiculiser la personne de Jésus, puis peut-être Pierre va juste pas être capable de vivre ça, puis il va s'en aller. Mais une chose, on voit, il sortit et pleura amèrement. Hein? Il sort et pleure parce qu'il voit peut-être le commencement de quelque chose d'intolérable qui se passe. Et il pleure, par contre, parce qu'il se souvient des paroles de Jésus. Hein? Il se souvient avant que le coq chante, « Tu me renieras 3 fois. » Et donc, je veux parler de cette attitude-là de tristesse qui vient, qui est selon Dieu, qui nous amène à être convaincus qu'on a eu tort. Il va passer du gars qui maudit le Seigneur à un gars qui est triste de l'avoir maudit. Il va avoir un changement d'attitude ici. Hein? Puis dans le fond, entre maudire et dire « qu'est-ce que je viens de faire là, mon chum? Qu'est-ce que je viens de faire à mon ami? Hein? » Et donc, il va donner raison à Jésus-Christ et à ce qu'il avait dit avant. Y a-t-il des exemples dans la Bible que vous voyez d'hommes et de femmes qui ont été attristés pendant une petite période de temps parce qu'ils ont été convaincus par Dieu, puis ça l'a produit après ça une meilleure attitude, une meilleure marche? Abraham, dans quelle situation? Avec son fils? Excellent. D'autres situations? Développe un peu. Quand il allait sacrifier son enfant, y avait-tu une attitude d'être convaincu à un moment donné? Donc, il se sentait mal, mais il n'était pas nécessairement sous conviction à ce moment-là. Donc, je parle vraiment de s'être senti mal parce qu'on était sous une conviction de péché. Là, Dieu est venu. Ça l'a attristé la personne pour un certain temps, puis après, elle s'est relevée, puis elle marchait mieux. Hein? David avec Bathsheba, excellent. Ça, c'est quand, dans le fond, il a couché avec Bathsheba, puis qu'il a fait tuer Uri, c'est ça? Très bon exemple. François? Oui. Donc on voit les 11 disciples à part Judas dans le fond qui. Mais ouais, c'est ça. Fait que ce que je le répète pour le micro, dans le fond, les 12 et les 11 dans le fond ont toutes fui comme des peureux. Mais Jésus est revenu, non pas avec juste une vérité qui les condamnait, mais il leur a fait à manger, il les a restaurés, puis c'est devenu des gens qui étaient prêts à mourir, même comme témoins de la résurrection. Excellent. D'autres endroits comme ça, on voit des gens qui ont été attristés peut-être pendant une période de temps, mais qui ont été relevés, puis que ça a produit une nouvelle marche avec Dieu. Hein? Job, oui, là, Job, lui, était choqué hein, envers la grâce de Dieu. Ah non, excuse-moi, j'ai pris ça pour Jonas. Job, oui, Job, absolument. Job qui disait, j'ai parlé sans connaître des choses qui dépassent ma pensée. Il confesse à la fin, puis excellent. Ce sont des bons exemples. OK, on arrive à la fin de la deuxième étape du procès religieux, et je pense que je l'ai dans Luc 22. Ah, j'avais un verset ici. On peut le lire, c'est dans 2 Corinthiens 7:10. Il y a une tristesse qui est selon Dieu. Elle produit une repentance à salut dont on ne se repent pas. Donc la personne n'est pas, elle regrette pas d'avoir été attristée. Hein? Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Et dans l'Église des Corinthiens, il y avait de l'immoralité. Et puis, il fallait que les gens voient cette personne qui était dans l'immoralité, puis fassent une discipline. C'était pas facile. Puis, il y avait du désordre aussi dans l'Église. Puis, Paul avait écrit 1 Corinthiens, puis la lettre de 1 Corinthiens pour adresser ces problèmes-là. Les Corinthiens ont agi en fonction de la première lettre. Puis, il dit, votre tristesse, elle a produit un empressement. Elle a produit de faire ce que Dieu veut. Et l'Église des Corinthiens elle s'est relevée puis a dit, garde, oui, ça nous attriste que tu nous fasses des reproches, mais on a eu tort. On a eu tort là, on a eu tort là, on a eu tort là, puis on a agi. Et donc, c'est une tristesse qu'on ne regrette pas d'avoir eue. Dans Luc 22, vous êtes là. On va lire versets 63-64. Luc 22, 63-64. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui, le frappaient et lui voilèrent le visage et l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé » et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres insultes. Au lever du jour, le collège des anciens, ça c'était le verset 66, je vais arrêter là. Ah ben on peut continuer. Il y a une comparution devant le Sanhédrin. Donc on est rendu à la troisième étape des procès religieux, c'est que dans le fond, on a vu dans les deux derniers messages que pour pouvoir accuser Jésus d'avoir brisé leur loi, il a fallu qu'il brise 22 lois pour le condamner. Rappelez-vous de ça? Et une de celles-là, c'était, tu peux pas faire un procès dans une maison privée, il faut que ça ait lieu dans la cour du Sanhédrin, puis ça doit pas être fait un jour dans la nuit, il faut que ça soit fait après le sacrifice du matin. En tout cas, ils ont attendu jusqu'au matin pour faire la condamnation devant le Sanhédrin, mais tout était déjà réglé. Ça faisait déjà deux fois qu'on les avait entendus dire qu'ils étaient condamnés. Mais là, ils vont faire une formalité en public, de ce qui avait déjà été décidé. Donc, ça va avoir l'apparence d'être une accusation formelle. Et la question qu'on va lui poser, c'est « Es-tu le Fils de Dieu? » Et Jésus va répondre « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Puis si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. » Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Jésus, il dit dans le fond « Si je vous le dis, vous ne me le croirez pas. » Donc, il est en train de dire « Je vais parler, mais l'écoute que vous allez avoir changera pas le procès. Vous allez me crucifier pareil, puis vous allez faire exactement le projet que ça fait des mois que vous attendez de faire. Vous ne changerez pas votre cœur. Il n'y a pas rien qui va changer. » Et donc, la repentance, on va parler un petit peu de ça, de la repentance. La repentance, un des mots grecs pour repentance, c'est « métanoïa », et ça veut dire « changer d'attitude » ou « changer de pensée », faire un échange de pensée, okay? Un changement de pensée. On va en parler un petit peu plus tard de ça, je pense, dans mes définitions. Ouais. Excellent. Donc ici, Jésus dit, même si je vous le dis, vous ne me croirez pas, puis si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. Ça me fait penser à Ézéchiel. Ézéchiel, il avait dit, c'est Dieu qui dit à Ézéchiel, le prophète, dans Ézéchiel 33, il dit, « Toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Ils se disent les uns aux autres, chacun à son frère, « Venez donc, écoutons, quelle est la parole qui procède de l'Éternel? » Et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche est un sujet de tromperie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais les mettent pas en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, ils arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. » Donc, Dieu dit à Ézéchiel, tu es comme un chansonnier dans un bar. Les gens viennent, ils viennent écouter ta belle chanson, ils viennent te mettre de l'ambiance dans leur vie, mais ils n'écoutent pas dans le but d'obéir aux paroles que je te donne pour eux. Donc, c'est un petit peu ça, ce qui se passait en Israël. Je vous le dis, mais vous ne croirez pas, puis je vous interroge et vous ne répondrez pas. C'est un petit peu ce que Jésus, ici, est en train de dire. Puis la définition de la repentance, c'est, comme je disais, c'est un changement de pensée avec une attitude de foi. Un changement de pensée avec une attitude de foi. Dans Hébreux 4, l'auteur des Hébreux dit « Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien à nous qu'à eux » en parlant des Israélites qui étaient dans le désert. « Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. » Donc la personne, elle entend, elle connaît la vérité, elle est mise sous lumière, elle est mise sous conviction, elle est mise sous condamnation, entre guillemets, mais elle leur sert de rien parce que les gens ne mettent pas leur foi, ne mettent pas leur confiance dans ce que Dieu dit des choses. Et c'est aussi une attitude pour la vérité. Donc, c'est une attitude, la repentance, c'est un changement de pensée avec une attitude de foi, mais c'est aussi une attitude pour la vérité. Puis, qui dit prendre la position pour la vérité, dit aussi prendre la position contre nous-mêmes. Un pasteur que j'avais beaucoup aimé, il avait dit « La repentance, c'est prendre la partie de Dieu contre moi-même. » Si Dieu dit que j'ai tort, j'ai tort. Mais dans ce cas-là, dans ce procès-là, si les Juifs disent hey, « on a tort, on a brisé nos 22 lois, c'est nous autres qui a péché, on te demande pardon, tout ça », ça aurait des implications, ça. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils changent la tournure des événements, mais ils sont comme Ézéchiel, Dieu va dire à Ézéchiel, ils ont la tromperie dans leur bouche puis dans leur cœur. Ils ne veulent pas changer ça. Donc, nécessairement, la repentance amène nécessairement, éventuellement, un changement de d'œuvre, tu sais, que le voleur arrête de voler, que le menteur arrête de mentir. Mais au départ, c'est j'ai menti. Je ne dirais pas que je n'ai pas menti. J'ai menti. C'est un mensonge. Okay? Donc, Jésus, regardez ce qu'il dit. Il est dans un procès. Il est devant les 71 membres du Sanhédrin. Ils sont tous là autour de lui, puis il dit « Si je vous interroge », c'est quoi? C'est les termes de quoi ça, « Je vous interroge »? C'est les termes d'un juge ou d'un avocat de la prosecution ou comment tu appelles ça? L'avocat de la couronne. Donc, « Si je vous interroge », c'est moi qui vous interrogerai. Et est-ce que Jésus peut faire ça? Est-ce qu'il peut dire ça? Il est le juge de l'univers, puis là, il est dans un tribunal, mais il est le juge de l'univers. Donc, « Si je vous interroge », hein? Et il va dire, désormais, le Fils de l'homme, regardez, il va parler de son autorité. Le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu puissant et tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Alors, ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignage? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Donc, il est en train de dire, je vais venir comme un juge. Je vais venir comme assis sur un trône à la droite de Dieu pour juger. Et donc, les autres, ils disent, ah, tu te fais l'égal de Dieu à ce moment-là. Puis il dit, oui, en effet, je suis le Fils de Dieu. Et là, dans la même période, donc, si on se rappelle, ça a eu lieu le matin, ils ont attendu que le soleil se lève. Il s'est passé quelque chose cette nuit, c'est la mort de Judas. Et donc, on va lire ça de Matthieu. Si vous êtes dans vos Bibles, vous pouvez tourner dans Matthieu au chapitre 27, 3 à 10. Avez-vous assez de lumière? Oui? Ça marche? Moi, j'ai beaucoup de lumière. Hein? Des fois, je ne pense pas aux autres. Alors, Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta 30 pièces d'argent au chef des prêtres et aux anciens en disant, « J'ai péché en faisant arrêter un innocent. » Il répondit, « En quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi que cela regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres les ramassèrent en disant, « Il n'est pas permis de mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. » Après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. On va aller jusqu'au verset 10. « C'est pourquoi ce champ était appelé le champ du sang jusqu'à aujourd'hui. » Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur à laquelle il a été estimé par les Israélites, et les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On va regarder à l'écran aussi dans Actes. Actes est écrit la même chose. Pas tout à fait pareil, mais c'est bien intéressant. Dans Actes 1, 18, cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime. Il est tombé en avant, s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. C'est pas pareil. En fait, c'est pas du tout pareil. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris, c'est pourquoi ce chant est appelé le chant dans leur langue, Akeldama, c'est-à-dire le chant du sang. Donc, il y a un problème, c'est que Judas, il était supposé d'intervenir dans la mise à mort de Jésus pour le condamner. On avait juste un seul chef d'accusation contre Jésus, c'était le blasphème. Mais pour un juif, un blasphème, c'était de prononcer le nom de Dieu. Okay? Le nom de Dieu. On disait toujours Dieu, on l'appelait le nom. On ne prononçait jamais son nom. C'était un blasphème que de prononcer son nom. Et Jésus n'a jamais prononcé le nom de Dieu. Il a juste dit qu'il était le Fils de Dieu. Et on l'a accusé de blasphème sur cette cause-là. Par contre, les Juifs avaient perdu le droit de mettre à mort un criminel dans leur temps. Les Romains ne leur accordaient pas ce droit-là. Et pour avant, quand ils avaient le droit de mort, comment est-ce qu'on mettait quelqu'un à mort en Israël? Comment? Avec quoi? Oui, mais quand ce n'était pas les Romains, mettons que les Juifs avaient le droit de peine de mort, on tuait quelqu'un comment? Avec des roches. Exactement. Donc, tandis que pour les Romains, c'était par crucifixion que ça se passait. Donc là, on n'a pas le droit d'être condamné, donc les autorités romaines, on n'a pas le choix de passer par eux, mais on n'a pas on a essayé de faire venir des témoins que Jésus avait blasphémé contre le temple, puis avait dit « je détruirai ce temple », puis en trois jours, je le rebâtirai. Mais les témoins ne s'entendaient pas ensemble, puis il y avait comme des faux témoins là-dedans, fait que ça avait comme pas mené à grand-chose cette affaire-là. Et donc, on avait besoin de Judas, un, pour le mener à Jésus, dans le jardin, on ne savait pas où ce qui était. Il y a des milliers, voire des centaines de milliers de personnes durant la Pâque qui ont des tentes un petit peu partout. Donc, il fallait trouver où ce qu'il était. Il fallait avoir un témoin assez véridique pour convaincre le général d'armée, le gouverneur, de dégager 300 à 600 soldats pour venir l'accompagner pour faire l'arrestation. Donc, ce n'était pas n'importe quoi. Puis, on avait besoin de Judas aussi pour témoigner dans les tribunaux civils qui allaient venir. Et ça, ben Judas ne pourra pas être là parce que Judas est allé reporter l'argent, puis il s'est suicidé. Alors, Matthieu 27, dans Matthieu 27, 3 à 5, on lit, « Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords, rapporta les 30 pièces d'argent au chef des prêtres et aux anciens en disant, « J'ai péché en faisant arrêter un innocent, ils répondirent, en quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi que cela regarde. Donc, Judas a saisi de remords. Intéressant. Le texte dit « se repentit ». Mais le mot qui est utilisé, c'est plus « regrettant ». On devrait plutôt lire « il a regretté ». Métamélomai, dans un mot, là, il a comme basculé sur la deuxième ligne. Métamélomai, ça veut dire « regretter ». Et donc, il a continué avec son projet tout au long du souper. Par exemple, Jésus, trois fois, il a comme dit « celui qui met la main dans le plat en même temps que moi va livrer le Fils de l'homme ». 3 à 4 fois durant le dernier repas, il a comme donné la chance, crime, reconnais ce que tu es en train de faire, puis repens-toi. Là, tu sais, il a comme ouvert la porte, mais il a continué avec son projet. Il n'a jamais montré des fruits de quelqu'un qui se laissait convaincre par Dieu, puis qui changeait. Quand il y avait de l'argent qui était ramassé pour les pauvres, il prenait l'argent, puis il volait l'argent qui était destiné aux pauvres. Il n'a jamais montré les fruits de quelqu'un qui changeait de vie. Puis même Jésus, dans Jean 17, au verset 12, il l'appelait le fils de la perdition. Donc même s'il était un des 12 disciples, il était un fils de la perdition. C'est-à-dire qu'il n'était pas sauvé. Il était toujours perdu. Et reconnaître son péché, comme Judas a dit, j'ai fait ce qui est mal, j'ai livré un homme innocent, là, tu sais, puis eux autres disent, qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? Tu as ton argent, va-t'en avec, tu sais, on t'a payé, c'est réglé. Et là, c'est là qu'on réalise qu'il y a une différence entre une repentance, OK, qui est se repentir, metanoia, puis metamélomai. Metamélomai, c'est le gars qui a trompé sa femme, puis il s'est fait pogner. C'est le menteur qui s'est fait pogner dans son mensonge. C'est la personne qui n'aime pas les conséquences que le péché a produit sur lui ou sur les autres. Et face aux conséquences, il est triste. Il est triste que ça soit sorti au grand jour. C'est comme les politiciens qui vont s'excuser là devant les caméras, mais enfin, ils se sont fait pincer, ils font des excuses, mais ils trouvent ça dommage parce que ça a affecté l'opinion publique, etc. Mais être triste à cause des conséquences, ce n'est pas... ou être saisi de remords n'est pas, aux yeux de Dieu, la repentance. Et on va voir la différence entre Judas et Pierre dans cette situation-là. Que Pierre a été attristé, mais ça l'a produit chez lui un nouveau changement. Tandis que pour Judas, c'est un remords qui l'a amené à la mort. Hein? Remords. Ah, c'est de là que ça vient. Non, c'est une joie. Reconnaître qu'on est des pécheurs, qu'on a péché, c'est pas suffisant. Et d'ailleurs, Judas n'a pas reconnu qui Jésus était pour lui, puis à qui est-ce qu'il a fait du tort en acceptant les 30 pièces d'argent? À qui il a fait du tort? Hein? À lui-même, mais est-ce qu'il a fait du tort au grand prêtre? Il a fait du tort, premièrement, à la personne de Jésus. Ce n'est pas envers la personne qu'il est allé voir. Il n'est même pas allé voir. Ce n'est pas Jésus ou Dieu qui est allé voir pour avoir le pardon. Il a juste reconnu son état de culpabilité et ça l'a conduit à la mort. Okay? Nommez quelques exemples dans la Bible de gens qui, convaincus, se sont sentis mal, mais ça ne l'a pas produit une repentance, mais un remords. Ça a été difficile pour eux, oui. Ouais. Donc, il a fait un sacrifice avant d'aller à la guerre parce que le prophète n'arrivait pas, c'est tout ça? Puis, dans le fond, il était sous conviction, mais il a justifié lui-même. Hein? Il s'est justifié en disant « oui, mais tu sais, tu n'arrivais pas », tout ça. Souvent, Saül va faire ça aussi quand il se fait pincer, quand il court après David pour le tuer. Puis c'est pendant 12 ans de temps que ça va se passer, puis à un moment donné, Saül, il est là, il est en train de faire son numéro 2 dans la caverne. Puis là, David prend un couteau, coupe une partie de sa robe, puis quand il sort, il lui présente sa robe, puis il dit « Garde, j'avais ta vie dans mes mains, mais je t'ai épargné, tu sais. » Puis qu'est-ce que Saül va dire? Il va te dire « Je suis vraiment un méchant meurtrier, alors que tu me cherches du bien, moi je te veux du mal. » Non, il va dire, t'es bien plus juste que moi. Au lieu de dire, c'est moi qui avais tort de te poursuivre et de faire du mal, il dit, t'es bien plus juste que moi. Il n'est pas capable d'être sous conviction. Puis d'autres personnages dans la Bible comme ça qui sont mis sous la lumière, mais ne vont pas bien agir. puis ça va pas produire, ça va produire plus une, ça va être une tristesse qui mène plus à la mort, là, si on peut dire. Caïn, explique-nous un petit peu, Caïn. Ah ouais, exact. Donc très bon. Donc Caïn offre un sacrifice qui ne plaît pas autant à Dieu que Abel. Puis Dieu dit, j'aime mieux le sacrifice de Abel. Et puis là, Caïn, il vient sous conviction qu'il n'a pas fait ce qui plaisait à Dieu. Puis là, il commence à haïr l'autre plutôt que de... Puis là, il commence à avoir des mauvais sentiments envers son frère, pense peut-être même à le tuer. Puis Dieu dit, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Donc, il aurait pu dominer sur son péché. Mais au lieu de laisser la conviction venir, faire dans son cœur un travail, une tristesse, oui, c'est correct qu'il soit triste que Dieu aime plus l'offrande de son frère, mais au lieu de faire ce que Dieu veut, il va commencer à faire ce que Dieu veut pas. D'autres exemples? Comment? Jacob, dans quelle histoire? Oui, Jacob et Ésaü. OK. Il pense que Jacob et Ésaü, oui. Mais dans cette histoire-là de Jacob et Ésaü, on voit Ésaü qui vend sa bénédiction pour un bol de soupe. Il a faim, puis il décide qu'il donne la bénédiction que Dieu devrait lui donner à lui. Il la vend pour un bol de soupe. Puis après, c'est écrit, il implora avec larmes pour avoir cette bénédiction qu'il avait échangée. Mais c'est sans effet, hein? Mais c'est avec regret, sans repentance. Il le faisait juste avec regret. Il regrettait d'avoir échangé tout son héritage pour un bol de soupe. Hein? Il regrettait, mais il se repentait pas. Il n'était pas en train de dire « j'ai eu tort de faire ça ». Il pleurait sur les conséquences d'avoir perdu. Le jeune homme riche, qui Jésus lui dit, vends tout ce que tu possèdes, suis-moi. Puis c'est écrit le jeune homme. Puis qu'est-ce que Jésus, c'est quoi qui est écrit dans le texte de Jésus? Jésus l'aima. Mon screensaver, il part tout le temps. Puis là, j'ai plus accès à mon message, puis mon écran est gelé. Croiriez-vous ça d'un Mac? C'est une blague. OK. Donc, on a cette histoire-là. Vous voyez ici Judas qui a essayé de réparer. Il a pris les 30 pièces d'argent. Puis dans le film, là, il se frotte l'argent. Là, il se brosse les dents avec le sac. Là, tu sais, il vient toute la bouche en sang, dans le fond. Il regrette d'avoir vendu le Fils de Dieu. Il regrette. Il a des remords. Il se fait mal jusqu'au sang. Puis là, ben, il donne l'argent. Il n'y avale pas. Tu vois les grands prêtres. Puis il apprend. Puis il lance comme ça. Puis elle leur vole sur le plancher. C'est assez... être rempli de remords à cause des conséquences ou du mal qu'on a fait n'est pas suffisant. Judas devait aussi reconnaître l'amour de Dieu puis le pardon qui était disponible. Il essaie de rewinder. Hein, des fois, on aimerait ça comme revenir comme si on n'avait pas fait, comme si on n'avait pas dit. Et puis, mais la réparation en soi n'apporte pas le pardon. La réparation suit le pardon. La réparation, quand tu as fait quelque chose, tu peux le réparer. C'est juste que Judas remette les 30 pièces d'argent. Mais il a besoin de savoir que son péché est pardonné aussi, que Jésus-Christ est prêt à le pardonner et sa mort sur la croix va servir à ça. Jésus va être puni à sa place pour les péchés de Judas, comme toutes les nôtres aussi. Et donc, c'est une tristesse qui mène à la mort. Vous avez nommé quelques exemples qui sont excellents. Hein? Dans le reste de l'histoire, on voit comme des contradictions un petit peu. C'est la manière que Judas est mort. Puis les gens qui ne croient pas à la Bible comme étant inspirée vont dire que c'est un livre qui est truffé de contradictions. Et je vais vous aider un petit peu à essayer de discerner, voir si vraiment il y a contradiction. Premièrement, la manière de sa mort. Acte dit, dans Acte 1:18, qu'il est tombé en avant, la tête première, et qu'il s'est fendu le ventre, puis que les intestins ont été mis à découvert. Matthieu dit qu'il s'est pendu. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est pendu, la corde a cassé, il est tombé sur une roche, puis il s'est fendu le ventre. Peut-être, on pourrait penser ça, mais il y a une apparente contradiction. Quand on est en présence d'une contradiction dans l'Écriture, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on essaie de comprendre, on essaie de faire des distinctions. Et la distinction ici va être importante. Dans la Pâque, quand on fêtait la Pâque, c'était 3 jours que ça durait, tout ça. Il ne devait pas y avoir de cadavres à l'intérieur des murs de la ville de Jérusalem. Alors, si la Pâque a commencé la veille, c'était la veille de la Pâque. Ce n'était pas la Pâque encore, c'était la veille de la Pâque. Les gens mangeaient un agneau chez eux, en famille, la veille de la Pâque, et ça commençait au coucher du soleil, pas à minuit. Donc, le jeudi précédent, c'est à l'heure du souper. La Pâque commençait d'abord par la nuit, donc la soirée. Dès que le coucher du soleil avait lieu, on était dans la veille, dans la première journée. Il ne devait pas y avoir de cadavres dans la ville, sinon la ville aurait été vue comme impure. Hein? Et donc, le vendredi matin, à 9h, il va y avoir un sacrifice du matin, comme à l'habitude, puis à 3h, le sacrifice pour tout le peuple. Et on va, les 24 prêtres vont célébrer la Pâque dans le temple. Et cette journée-là, les cadavres qui n'avaient pas été inhumés, on allait au-dessus de la muraille puis on les jetait au-dessus d'une vallée qui s'appelle la vallée de Ben Hinnom, qui était un endroit où on appelait aussi Tophet, T-O-P-H-E-T. C'était un endroit où les Israélites offraient leurs enfants à Moloch. C'était un culte des Babyloniens dans l'Ancien Testament autour de 600 avant Jésus-Christ. C'est un endroit aussi qui servait de dépotoir, cet endroit-là, hein, les déchets de la ville. Puis c'était aussi un endroit où on jetait les gens qui n'avaient pas de sépulture, c'est-à-dire qui n'avaient pas de tombeau. C'était là qu'on envoyait les cadavres des criminels. C'est là où le cadavre de Jésus devait aller. Mais quelqu'un qui a dit « Non, non, je vais le mettre dans ma tombe. » À cet endroit-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on jetait les cadavres au-dessus de la muraille. Ils se fracassaient sur les rochers. Et les pompes funèbres passaient après Pâques pour ramasser les restes puis aller jeter ça dans le dépotoir. Okay? Donc, c'est sûr que les corps heurtés contre les pierres, la tête première, tu sais, il a été jeté, il est tombé tête première puis il s'est ouvert le ventre. On peut comprendre qu'il s'était pendu. Les gens l'ont trouvé au bout de sa corde, ils l'ont décroché, ils l'ont jeté en bas de la muraille. Donc, il n'y aurait pas nécessairement de contradiction pour ça. Donc, la première journée de la fête de Pâques, on appelait la journée des pains sans levain. Et ce premier jour-là, ben, il ne devait pas avoir de cadavre dans la ville. Question? C'est-tu clair? Ouais. Parce que c'est comme des creuse-têtes, un petit peu, d'essayer de voir ces distinctions-là. Deuxième chose, qui achète le champ? Dans Matthieu, c'est écrit, « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète, ils ont pris 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et... ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. » Donc, dans ce verset-là, c'est les prêtres qui ont reçu l'argent, ils l'ont laissé, ils ont dit « Non, non, on ne peut pas rien faire avec ça. » Et puis, ils ont pris l'argent, puis ils ont acheté un terrain avec ça, le terrain du potier. Donc, dans Matthieu, c'est les prêtres qui achètent le champ, mais dans le livre des Actes, Judas achète le champ. Alors, c'est dur pour un mort d'acheter un champ. Mais dans le fond, l'argent du sang, c'est-tu dans ce verset-là qu'on l'a? Non, c'est dans Actes, c'est écrit qu'à cause que l'argent était l'argent du sang, ils n'ont pas gardé l'argent pour le temple. Hein? Donc, j'ai pensé à ça, je dis, hey, l'argent sale, tu sais, on dit souvent de l'argent sale, du lavement d'argent, l'argent sale. Je me demande si ça ne vient pas de là, de cette histoire-là où ils ont refusé d'avoir l'argent qui venait du sang. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Donc, les prêtres refusent cet argent-là. L'argent est lancé. Elle a été reprise pour acheter un champ qui allait servir de place pour enterrer les étrangers. Donc, les gens qui n'avaient pas de tombe en Israël puis qui mouraient en Israël, à Jérusalem, bien là, ça leur donnait des tombes pour les étrangers. Et ce champ-là est appelé le champ du sang ou encore le champ du potier. Très intéressant. Donc, comment est-ce qu'on peut faire la distinction entre qui a acheté le sang, le champ, Judas ou ben non, je sais pas si je l'ai ici, Judas ou ben non les prêtres? Ben, les prêtres l'ont acheté. Techniquement, c'est eux autres qui ont fait la transaction, mais ils ont fait la transaction légale au nom de Judas, puisqu'ils ont refusé son argent. C'était toujours son argent et ils ont acheté un cercueil, ils ont acheté un terrain avec ça. Intéressant, hein? Et d'autres vont dire, oui, mais Matthieu cite, qui est-ce que Matthieu cite? Parce qu'il dit ici, s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Mais quand tu lis ça, tu t'aperçois que ce n'est pas Jérémie qui a dit ça. Alors là, les gens qui sont contre l'inspiration des Écritures vont dire, ben, c'est pas Jérémie qui a dit ça, c'est Zacharie. Ben, Jérémie a dit quelque chose. Dans Jérémie 19, il a dit, « Rends-toi dans la vallée de Ben-Hinnom. » Je viens de vous en parler. C'était le dépotoir où ce que Judas a été jeté en bas. « Rends-toi dans la vallée de Ben-Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie, et là tu publieras les paroles que je te dirai. » Et dans Jérémie 19, ça parle d'un nombre de cadavres que tu n'as pas idée qui vont se ramasser là. Et puis, Jérémie, il dit, il va arriver quelque chose en Israël qui va étourdir n'importe qui. Puis, en fait, il prophétise la destruction de cette ville-là, qu'elle va devenir impure. Et puis, en l'an 70, cet endroit-là était rempli de 1 million de cadavres. Lorsque Israël a été envahi par les Romains en l'an 70. Donc, avec l'argent qu'ils ont acheté le champ, okay, avec l'argent qu'ils ont acheté le champ, ils ont été enterrés dans ce champ-là. Le sang de Jésus leur est retombé sur leur propre tête. Donc, Jérémie parle de cette place-là, mais c'est surtout Zacharie qui en parle. Il dit, l'Éternel me dit, jette-la au potier. En fait, Dieu pose la question, je suis un berger en Israël, mais Israël ne m'écoute pas. Israël ne veut pas m'obéir. Alors, je donne ma démission. Quel salaire me donnerez-vous? Et ils répondent, 30 pièces d'argent. Qu'est-ce que valait 30 pièces d'argent dans l'Ancien Testament? Le prix d'un esclave mort. Je recule avec mon trailer sur ton esclave, je le tue. Oh, il faut que je te dédommage. Je te donne 30 pièces d'argent. Donc, Jésus a été estimé à la valeur d'un esclave, le prix d'un la dédommagement d'un esclave mort. Et dans Zacharie, il dit, c'est quoi le salaire que vous me donnerez pour avoir été votre berger? 30 pièces d'argent. Et là, l'Éternel me dit, jette cet argent-là au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et j'ai pris les 30 cycles d'argent et je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. Donc, les gens disent, ouais, mais d'abord, pourquoi c'est Jérémie? Eh bien, il était commun en Israël, dans l'écriture de ce temps-là, de citer le plus grand des deux écrivains. Donc, supposons que c'était Jérémie et Zacharie qui l'avaient écrit. On va citer juste Jérémie, hein, qui était un plus grand prophète que Zacharie. Donc, ça se résout là. Question par rapport à ce point-là? Là, j'aurais pu parler de la vallée de Ben-Hinnom, parce que c'est le même mot, c'est le mot Géhenne, ou enfer, vient de ce mot-là. Mais là, je me disais, on en a pas mal déjà pour le message aujourd'hui. En conclusion aujourd'hui, on a terminé l'histoire avec Judas qui est rempli de tristesse, rempli de remords par rapport à ce qu'il a fait, mais ça ne l'a pas conduit à revenir à Jésus ou à être parmi les 12 qui vont bâtir l'Église après. C'est une tristesse qui l'a conduit à la mort. Pourquoi? Ben, on a vu aujourd'hui que le remords n'est pas... Dieu ne cherche pas le remords chez une personne coupable nécessairement. Et que juste être convaincu du mal qu'on a fait ou des conséquences qu'on sur lesquelles on pleure, c'est pas suffisant. Il faut aussi comprendre l'amour de Dieu pour nous. Judas, il avait besoin énormément d'être pardonné. Puis eux autres, les grands prêtres, qui n'avaient rien à faire là-dedans. Tu nous as eu ton argent, fly. Par contre, Jésus, lui, avait tout à donner à Judas. Et donc, une personne, pour avoir une repentance qui est complète, c'est pas juste de savoir qu'est-ce qui est mal, qui a été fait, mais de connaître aussi l'amour de Dieu pour nous. Puis aussi, il faut qu'on se mette ça bien comme il faut dans la caboche. C'est que j'ai bien beau aller monter les marches d'une église à genoux puis m'en rendre les genoux pleins de sang, ou je peux acheter des fleurs après avoir crié après quelqu'un, ou je peux essayer de réparer, mais le pardon ne s'acquiert pas, il se reçoit. Il ne se mérite pas, il se reçoit. La réparation suit nécessairement. Elle suit, mais non pas pour être pardonné, mais parce que je répare ce que je suis capable de réparer. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas réparer, comme avoir offensé un Dieu saint. On ne peut pas reprendre les mots. Judas peut se laver la bouche avec son argent autant qu'il veut. La machine est partie. Je veux dire, il va se faire crucifier. Il n'y a rien qui va changer. Les conséquences ne changeront pas. Il y a des choses qu'il ne peut pas réparer. Ou tu as parlé contre quelqu'un, puis tu as ouvert un oreiller dans le vent, puis là, l'oreiller est parti partout. Je veux dire, essaie de ramasser toutes les plumes, puis de remettre ça dans l'oreiller. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de réparer, mais il y a des choses qu'on peut réparer. Mais ce n'est pas la réparation qui nous attire le pardon. Le pardon, c'est on demande pardon, puis on répare qu'est-ce qu'on est capable de réparer. Judas, c'est juste qu'il a leur porté l'argent, c'est ça qu'il devrait faire. Mais pour être pardonné, il a besoin d'aller plus loin que ça. Il a besoin de demander pardon, non pas au prêtre, mais au Seigneur Jésus, à son Dieu. Et donc, avoir des remords sur ce qui est arrivé, sur les conséquences qui est arrivé, ce n'est pas suffisant. C'est une tristesse qui souvent, surtout si les choses ne peuvent pas changer, tu t'en sortiras jamais de cette peine-là. Parce qu'il y a des choses qui ne changeront jamais. Je veux dire, des choses que tu ne pourras jamais aller effacer ou reprendre. Mais il y a toujours le pardon en Jésus. On a, au milieu de mon message, on a parlé du Sanhédrin qui dit, « Même si je vous parlerais, vous ne me croiriez pas. Puis même si je vous interrogerais, vous ne me répondriez pas. » On a parlé de ce genre de personnes qui écoutent la parole comme des gens vont manger dans un bistrot, qui écoutent la Bible comme un chansonnier, puis ils passent un moment agréable à entendre des paroles, des belles paroles, tu sais. Puis Dieu qui dit à Ézéchiel, « Oui, mais ils écoutent un chansonnier, mais ils ne veulent pas changer à l'intérieur. Ils écoutent, mais ne veulent pas obéir. » On a vu que la repentance, c'était un changement de mentalité, c'était de dire, « OK, parfait, hey, j'ai tort. Hey, j'écoute ça, là, ce que le chansonnier dit. Là. J'ai tort ici. » Dans Hébreux 4, au verset 12, au verset 2, il dit, « La parole de Dieu ne leur servit de rien, car ils ne mélangèrent point la parole à ce qu'ils entendirent. » Puis au verset 12 du même chapitre, il dit, « La parole est comme un juge. Elle vient discerner des pensées et des sentiments du cœur. » Elle est un juge. Elle vient nous juger. Et donc, écouter avec repentance, c'est d'écouter avec l'idée que, « Oups, c'est quoi? Pierre, il se rappelle des paroles que Jésus avait dit. » Avant que le coq chante, tu vas me renier trois fois. Il l'avait dit. Il se souvient des paroles, puis il dit, hey, sais-tu quoi, j'ai vendu mon chum. J'ai vendu mon chum. Jésus avait raison, j'ai tort. On a vu que la repentance, c'est de prendre la partie de Dieu contre soi-même. Puis de dire, hey, sais-tu quoi, j'ai tort. J'ai eu tort. Je te demande pardon, Seigneur, j'ai eu tort. Change ma pensée envers ce que je pensais de moi-même. Puis j'ai eu tort. C'est une tristesse dont on ne se repent jamais. Puis la preuve, c'est que Pierre, dans le fond, il y a une tristesse qui l'a conduit à la repentance, c'est que, vous rappelez-vous, une des paroles qu'il a dit à propos du reniement que les Israélites, et le reniement, quand il a prêché à la Pentecôte, là, il y avait des milliers de gens qui étaient là. Rappelez-vous qu'est-ce que Pierre a dit à plein poumon? Vous avez renié le juste! Pierre est là, puis il prêche, vous avez péché les gars, vous avez renié le juste! Il dit pas, on a renié le juste! C'est réglé pour Pierre. Pierre, il s'est rappelé que Jésus avait dit qu'il le renierait, il le renie. Mais Pierre, son regret, sa tristesse, n'est pas resté là. Il a accepté le pardon de Jésus. Puis maintenant, il ne fait plus partie de ceux qui ont renié, dans le sens qu'il a reçu le pardon pour ça. C'est réglé, mais les autres, il faut qu'ils se repentent de ça. Fait qu'il est là, vous avez renié le juste, puis il prêche à plein poumon comme ça. Comment il peut prêcher avec autorité de quelque chose que lui-même a fait? C'est seulement parce qu'il a reçu lui-même, l'amour de Dieu pour lui, il a reçu le pardon. Et je ne sais pas c'est qui a dit ça, mais un des bons exemples, un des bons personnages, c'est Bathsheba, c'est David avec Bathsheba. David fait, on se rappelle de l'histoire, c'est qu'il a trompé, il a couché avec une femme qui était mariée à un homme, il a pris le gars, il l'a envoyé à la guerre, il a dit aux autres gars, mettez-le en avant pour être sûr qu'il crève, parce qu'il voulait enterrer son mensonge. Puis il y a un prophète qui vient le voir, puis il lui dit, « Qu'est-ce que tu ferais à un homme qui était un voisin d'une femme qui avait juste une brebis pour se nourrir? » Elle prenait son lait pour se nourrir. Tu sais, puis il prend cette brebis-là, il la prend chez lui, puis il l'immole, il se fait un gros festin, puis il invite tous ses amis, puis la femme, tu sais, « Qu'est-ce que tu fais avec un homme comme ça? » Ben David dit, « C'est pas compliqué. Qu'on tue un tel homme. » Et le prophète, il dit, « Ben c'est toi, mon chum. » Et là, David va écrire le psaume 51. Tournez avec moi dans le psaume 51, puis on va terminer avec ça. Psaume 51. Regardez la tristesse dans ce chapitre-là. Et regardez cette tristesse être changée en joie. Psaume 51. Ô Dieu, verset 3, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Prendre la partie de Dieu contre soi-même. J'ai tort, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, au verset 6. J'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, c'est pourquoi tu es juste dans tes paroles et sans reproche dans ton jugement. Verset 7. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Donc, Dieu ne veut pas juste que la tristesse puis le regret de ce qu'on a fait soit dans notre cœur. Il veut aussi que la vérité vienne dans notre cœur. Puis Jésus dit, la vérité, vous la connaîtrez, puis elle va vous rendre libre. Hein? Puis regarde, il dit, fais-moi connaître ta sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Oui, c'est correct de reconnaître qu'on est coupable, mais il faut aussi reconnaître que Dieu peut nous pardonner puis nous purifier. C'est important. C'est ça notre repentance. La boucle est complète là. Il dit, gars, fais-moi entendre des chants d'allégresse, au verset 10, et de joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. C'est beau, hein? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Change mes pensées au sujet de comment je me vois. Ne me rejette pas loin de toi. Dans l'Ancien Testament, on pouvait avoir l'esprit qui était retiré de nous. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors regarde ce qu'il dit au verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. C'est bon. Regarde le verset 16. Ô Dieu, Dieu de mon salut, « Délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. » Judas aurait pu dire, « Ô Dieu, délivre-moi du sang versé, puis je vais annoncer ta justice. » J'ai peut-être fait le mal, j'ai peut-être mal commencé, mais je vais faire mieux maintenant. Je vais enseigner aux pécheurs, puis ils vont revenir à toi. Je vais enseigner ta justice. Autant que j'ai versé le sang avec mes paroles, autant que là, si tu me délivres du sang, je vais faire ce qui est juste. Et la vraie repentance, celle qui est selon Dieu, ça nous attriste pendant un moment, mais on arrête de marcher dans notre stupidité. On finit par se relever, puis on est le vieux moi, jusqu'à temps qu'on change. En attendant, on reconnaît nos fautes, puis on marche en nouveauté de vie. Puis on devient de plus en plus comme Jésus, il veut qu'on soit. J'ai beaucoup aimé préparer ce message-là, puis j'espère que ça a été pour vous aussi une bénédiction. Alors, on va remettre ça au Seigneur. Je vous inviterai à faire un petit voyage par en dedans, à garder le silence, s'il vous plaît. Donc, on a vu aujourd'hui que Jésus est venu, il est venu plein de vérité. Mais il a dit au Sanhédrin, même si je l'ai dit, vous ne me croiriez pas. Il est venu plein de vérité, Seigneur, dans la vie de Pierre. Tu es venu plein de vérité. Tu es venu plein de vérité dans la vie de Judas aussi. Puis tu as donné des opportunités de reconnaître son péché puis d'être délivré du sang innocent. On a vu, Seigneur, que Judas marchait dans les remords et ne croyait pas ce que tu dis, que tu avais le pardon pour lui, que tu pouvais le délivrer du sang qu'il allait faire verser. Et Seigneur, souvent on est comme ça, Seigneur, on marche dans le regret, on pleure sur les conséquences de ce qu'on a fait, ce qu'on a dit ou pas fait. Mais il ne connaissait pas ton amour, Seigneur. Il ne connaissait pas ton pardon. On a vu avec Pierre, Seigneur Dieu, que tu es venu plein de vérité aussi. Tu es venu plein de vérité dans la vie de Pierre, puis plein de grâce aussi. Tu l'as quand même établi le chef de ton Église, ou le pasteur de Jérusalem plutôt. Parce que c'est toi le chef de l'Église. Puis tu le rétablis complètement, Seigneur. Parce que tu es venu plein de grâce et de vérité. Aujourd'hui, on est tous devant toi, ou ce qu'on pourrait tous dire, j'ai échoué contre mon ami, contre Jésus-Christ. On pourrait tous dire, j'ai tort. Mais Seigneur Dieu, tu veux aussi que la vérité de ton amour soit dans le fond de nos cœurs. Et cette journée-là de la croix, la crucifixion qui a eu lieu, tu es venu mourir pour les péchés de Judas, pour ceux du Sanhédrin. Tu es venu mourir pour mes péchés aussi, tout ce que j'ai fait de mal, pour me donner ton pardon en échange. Merci pour ça. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais fait cette transaction-là, qui nous écoute sur enregistrement partout dans la francophonie ou qui est ici dans ce lieu, n'a jamais fait cette transaction-là avec Jésus, à 3 heures, le vendredi après-midi, de midi à 3 heures, Jésus a, même ça a duré plus longtemps, mais de midi à 3 heures, il a été séparé d'avec le Père et il a porté ton péché, mon péché, qui nous sépare de Dieu. C'est lui qui l'a eu sur son dos, puis il a été puni, puis il a subi la séparation d'avec Dieu pour qu'on puisse être rapproché de Dieu, pour qu'on puisse avoir une relation avec Dieu. Si vous n'avez jamais fait cette transaction-là, je vous encourage à répondre à cette transaction-là. Jésus a fait la transaction, il a été puni comme un coupable, lui qui n'était pas coupable, et vous êtes un coupable, je suis un coupable, et si je fais la transaction, je vais avoir un avis de non-culpabilité, celle de Jésus-Christ qui va m'être donnée en échange. Donc, cette transaction-là est simple, c'est d'accepter qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Mais c'est aussi de se reconnaître pécheur, mais pas juste se reconnaître pécheur. Reconnaître qu'on est pécheur, mais que Jésus a tout fait pour nous. Donc, si vous voulez recevoir ce que Jésus a fait à la croix, répétez après moi. On va la faire comme on a l'habitude de le faire. Tout le monde fait cette prière-là, non pas qu'on la refait plusieurs fois. On la fait une fois en croyant ce qu'on dit, mais par courtoisie, l'Église a choisi de la faire avec vous. Alors, on va faire cette prière qui est une transaction, dans le fond, de croire ce qu'on vient d'entendre. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu, que tu es venu sur la terre pour être puni à ma place. Tu étais sans péché. Moi, je suis pécheur. Tu as porté ma punition pour que je ne sois pas puni. Tu es ressuscité des morts pour me préparer une place. Et je l'accepte. Seigneur Jésus, sois mon sauveur. Amen. Si quelqu'un a fait cette prière pour la première fois, la Bible dit que tu as fait la paix avec Dieu par la croix. C'est ça que ça veut dire. Tu as reçu le don de la vie éternelle. Tu n'as pas à mériter le pardon. Tu as accepté ce qui a été fait pour toi. Accepté que tu es pécheur et qu'il a fait quelque chose pour toi. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et je prie que l'amour de Dieu puisse envahir ton cœur, que la paix de Dieu et son amour te comblent. Pour chacun d'entre nous qui a des problèmes avec la culpabilité, acceptons que Jésus nous aime et que son pardon nous est toujours disponible par une simple confession. Si tu as péché, ne laisse rien de non confessé dans ta vie. Nomme-le par son nom, puis marche en nouveauté de vie à chaque fois. Amen. On va finir avec un chant, puis après ça, si vous voulez, on peut rester à dîner ensemble, ceux qui peuvent.